I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer dans l'univers très féminin d'une jeune femme qui ne cesse de nous surprendre. Zaya Dehar, du haut de ses 31 ans, a crevé l'écran dans son premier grand rôle, Une fille facile, de Rebecca Zlotowski, film qui a été primé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Mais Zaya, c'est aussi une passionnée de mode qui a créé sa première collection de lingerie de haute couture à 19 ans. Muse artistique des plus grands photographes, Karl Lagerfeld a vu en elle le top modèle idéal. Aujourd'hui, Zaya a accepté de passer dans Chiffon alors qu'elle est en pleine promo de son nouveau film. Entre France Inter et le plateau de Quotidien, elle a accepté de me recevoir dans Chiffon. Je suis très honorée. Merci infiniment, Zaya.
Moi aussi, je suis honorée d'être avec vous.
Je me permets de tutoyer.
J'ai oublié. Mais... comme il y a eu le micro, ça m'a crispé. Je me suis sentie qu'il fallait que je vous... Il fallait que je te tutoie.
On se tutoie.
Oui, exactement.
Alors, j'ai essayé de résumer ton parcours, mais c'est vraiment impressionnant. Comme je dis, tu as 31 ans et tout ce que tu as fait, c'est waouh.
Merci.
Alors, j'ai oublié de dire aussi... Pardon, c'est un peu décousu, mais j'ai oublié de dire dans cette... le CV est impossible à résumer, que tu as aussi été... tu es une femme extrêmement engagée avec la PETA pour les animaux. Tu as fait un portrait d'ailleurs nu.
Ça a été photographié par Brian Adams. Et la mise en scène, c'était comme les images de bœuf qu'on retrouve chez le boucher.
Avec les morceaux de jarret, les machins.
Exactement.
Tout écrit sur ton corps.
Oui, l'idée c'était de montrer que si on mettait les humains comme les animaux, qu'est-ce que ça ferait? Comment ça pourrait impacter les gens? Et bien sûr, ça a choqué, c'est un peu...
C'est pour ça, on en a parlé.
C'est fait pour ça, exactement.
Tu as aussi Pierre et Gilles qui t'ont érigé en Marianne pour Paris Photo.
Oui, j'aime tellement ce tableau, il est magnifique. On a fait 5 tableaux ensemble avec Pierre et Gilles, et à chaque fois c'est une histoire différente, mais j'aime tellement les histoires dans lesquelles ils m'amènent, c'est toujours un plaisir, un honneur de travailler avec eux.
Alors, si je résume, actrice, muse, mannequin, créatrice, qu'est-ce qui te plaît le plus en fait? Parce que t'es là aussi pour parler chiffon, parce que je sais... que tu adores la mode et c'est pour ça que tu as accepté de passer avec moi pour un peu de légèreté.
Oui, exactement.
Alors, qu'est-ce que tu préfères peut-être le plus?
Je trouve que ça se rejoint en même temps. Déjà, quand j'ai commencé à faire la mode, j'ai commencé par ça. Ensuite, le cinéma est venu. Mais quand je créais, à chaque fois, tout commençait par une histoire. Toutes mes créations ont une histoire. S'il y a une coccinelle brodée à cet endroit-là, ou une petite fleur, ou un petit morceau de paille qui dépasse, ce n'est pas par hasard, c'est toujours une histoire. Je commence par imaginer un scénario dans ma tête, et après de ce scénario découle ses créations. Ce que j'aimais, c'est vraiment quand la femme porte ses créations ou même juste quand on les voit, qu'on puisse comprendre l'histoire. Du coup, dès le départ, il y avait aussi cette idée d'histoire et de mise en scène et que je retrouve maintenant aussi dans le cinéma. Et aussi, le cinéma m'inspirait aussi pour la mode. Alors du coup, ça se rejoint.
Tout se complète.
Exactement, tout se complète.
Peut-être que dans 20 ans, j'ai une question sur... comment tu te vois à l'âge de 50 ans, on va en reparler, mais peut-être que ton futur projet, c'est être scénariste, metteur en scène.
J'adorais.
Peut-être un scoop, bientôt dans Chiffon. Alors, qui es-tu, Zaya? Tu es née en Algérie?
Oui, je suis née en Algérie dans les années 90.
J'ai vu que tu avais une éducation assez stricte.
Non, pas du tout. Tout l'inverse. J'ai eu une grande, grande liberté.
Un papa ingénieur, c'est ça ?
Oui, exactement. Et puis, ma mère, elle ne travaillait pas en Algérie. C'était une femme au foyer. Et non, j'ai eu une enfance assez libre. Je pouvais complètement aller dans mon imaginaire, créer. Je n'avais pas de restrictions, en tout cas du côté de ma mère.
Ah, du côté de ta maman, c'est
exactement,
bien ce que j'ai vu.
Oui, du
ton
côté
papa
de ma
était plus strict.
Exactement, il était plus, mais tu plus vais conventionnel, dans, tu comme les parents.
Une, tu vivais dans une petite ville, c'est ça ?
C'est ça, je suis née, dans une toute petite ville que même les Algériens ne connaissent pas, Gris.
Qui est dans quelle partie de l'Algérie ?
Et qui est proche de Mascara. Et je suis née à cet endroit-là, mais on a beaucoup voyagé. J'ai aussi vécu dans le désert de l'Algérie pendant certaines périodes. Et on bougeait pas mal comme ça.
Et à l'époque, quand tu étais petite Zaya, tu rêvais de faire quoi ? Tu rêvais déjà de mode, de cinéma ?
Oui, j'adorais le cinéma. Je passais des heures, des journées entières à regarder les films égyptiens, des années 50, 60, 70 avec ma mère. Et
qu'est-ce qui te faisait rêver ? Les actrices, les femmes, les tenues ?
Les actrices, les mises en scène, les costumes. Et ensuite, ce que je faisais, c'était je reproduisais la même chose. J'essayais de créer des costumes avec ce que je trouvais à la maison. Et à chaque fois, je me mettais en scène par rapport à ce que je voyais. Et en même temps, j'imaginais des histoires. Et j'entrais dans des histoires, mais il fallait aussi compléter ça avec le look. Mm-hmm. Et c'était un ensemble. Et j'avais quand même une fixation. Il fallait que tout puisse aller ensemble. Mon jeu n'était pas complet s'il n'y avait pas le look qui n'allait pas avec l'histoire. J'étais un peu compliquée.
Et tu interprétais tes histoires devant tes parents, ta famille, ou tu restais toute seule dans ta chambre ?
J'aimais rester toute seule, mais des fois, quand je n'avais pas envie de couper mon interprétation parce qu'il y avait l'heure du goûter ou le déjeuner, bah dans ces cas-là, je continuais dans mon interprétation et je disais à ma mère, elle était prévenue, qu'il ne fallait pas qu'elle me coupe. C'est-à-dire, j'étais une adulte et du coup, elle faisait semblant que j'étais une adulte. Je lui dis, bah dans ces cas-là, c'est l'heure du goûter, considère que je suis ton amie qui vient prendre le thé chez toi. Et ne me parle pas comme une enfant. Et elle n'avait pas le droit de me dire, ah, tu veux ça ? Non, j'étais vraiment une adulte et je lui posais des questions d'adulte. Il ne fallait pas me couper dans mon jeu.
Tu avais quel âge à l'époque ?
Je commençais tout de suite à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à que je déménage en France, jusqu'à l'âge de 10 ans. J'étais tout le temps en immersion dans ces jeux-là.
Et quand tu es arrivée en France, tu ne parlais pas français, c'est ça ?
Non, je ne parlais pas français.
Comment tu as réussi justement à t'imposer ? Est-ce aussi par le jeu, l'imaginaire, la mise en scène ?
Ce qui était triste, c'est que quand j'ai déménagé en France, ça a un peu coupé ça. Parce que tout de suite, j'ai été réveillée par les difficultés. Parce que quand on a déménagé, on n'a pas pu tout de suite avoir un foyer stable. Et ce qui était triste, c'est aussi que je n'ai pas pu tout de suite avoir une scolarité stable. Du coup, qui m'a fait avoir beaucoup de retard. Et ça, c'était triste pour moi, parce que je n'avais pas envie d'avoir ce retard.
J'imagine qu'en préadolescence, oui. Adolescence, ça a dû être très difficile pour
c'était
toi.
C'était très dur, oui, cette période. Je trouvais plus ma place, je n'étais plus la première de la classe.
Oui, parce que c'était très bon élève.
Oui, exactement, et je n'avais plus mon repère, parce que la première année, on n'avait presque pas de foyer. Du coup, je ne pouvais plus vraiment beaucoup me mettre en immersion dans ces histoires. Mais malgré ça, j'essayais de trouver un peu des moments pour ça, et jusqu'à qu'on ait pu trouver une stabilité.
Et tu t'es teint les cheveux assez jeune.
Oh, très, très jeune.
En blonde platine. Là, tu as retrouvé ta couleur naturelle. Je te disais
exactement.
Que ça t'allait très, très bien.
Merci.
Je te l'ai dit en off.
Oui, je me suis colorée les cheveux à l'âge de 14 ans. J'avais cette envie-là parce que j'étais fan de Pamela Anderson, des Barbie. Ça me fascinait, cette cheveux. Je voulais vraiment faire poupée. C'était ça qui me fascinait, surtout qui m'amusait. Parce que voilà, les poupées, elles sont blondes et j'avais envie de jouer avec moi. Parce que quand j'étais enfant, je me déguisais également, bien sûr, mais j'avais ces poupées-là. Et dès que je commençais à avoir un peu un corps d'une femme, d'une adolescente, un peu avec... je commençais à avoir un peu quelques formes, ben, j'étais excitée par rapport à l'idée « Ah, enfin, je vais pouvoir m'amuser avec ce corps, je vais pouvoir mettre certaines robes que je ne pouvais pas mettre quand j'étais petite fille. Dans ces cas-là, je vais également jouer avec mes cheveux, je vais me permettre de faire une teinture. » C'était vraiment…
Ultra baby doll.
Exactement, je ne pensais pas vraiment à ce qui pouvait me convenir ou pas, c'était plutôt laisser place à tous mes fantasmes de petite fille, et je jouais même en étant adulte après.
Mais j'ai lu justement, je saute des questions, mais je viens à cette question du coup. J'ai lu dans une interview dans Elle, tu as dit « On s'acharne toujours sur celle qui affiche une féminité exacerbée, alors je suis sexy par révolte. »
Exactement. Je continue à avoir une féminité exacerbée et à être très peu vêtue parfois par révolte. Parce que je sais que y a certaines personnes ont une opinion sur ça. Je sais qu'on remet en question vos capacités, même professionnelles.
Tout ça parce que tu es ultra sexy, tu n'es pas intellectuelle, c'est ça. En gros,
oui,
c'est ça.
Ou même vos capacités même à pouvoir faire votre travail. Forcément, on n'est pas pris au sérieux. Forcément, peut-être qu'on est feignante, peut-être qu'on ne s'entraîne pas, peut-être. Mais alors qu'il n'y a aucune étude scientifique qui a prouvé ça. Mais malgré ça, c'est une croyance qui est très, très ancrée. Voilà, on ne peut pas vous prendre au sérieux. Si vous voulez être prise au sérieux, il faut aller vers le masculin. Et plus on va faire tout ce qui est très féminité,
L'androgynie, tu vois ce qui se passe dans les défilés en ce moment. Tu regardes les Fashion Week, il n'y a que des androgynes.
Oui, après, ce n'est pas gênant. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent bien comme ça. Moi, je trouve beau aussi le look androgyne. Je trouve ça magnifique. Mais ce que j'aime pas, c'est comment la société perçoit la femme, comment la société dénigre la féminité. Ça veut dire…
On stigmatise.
Oui, ça veut dire… Ça montre aussi quelle est la considération que la société a sur le masculin. Ça veut dire le masculin, ça respire le sérieux, l'intelligence, mais tout ce qui est féminin, ah non, c'est la légèreté, c'est le manque de sérieux, le manque d'intelligence, on ne sait pas forcément réfléchir. Et ça montre comment la société perçoit la femme. Et finalement, si on veut être pris au sérieux, on ne peut pas être prise au sérieux en mini-jupe rose-bonbon et talons aiguilles parce qu'on est trop féminine. Et non, le sérieux, ça se rapproche du masculin. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qui me révolte énormément.
Et là, pour venir chiffonner avec moi, alors, tu es en pleine journée de promo, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as enchaîné plusieurs plateaux, tu vas enchaîner un plateau en direct tout à l'heure. Alors là, comment tu t'es habillée pour me parler?
Oui, alors j'ai mis cette robe qui est couleur bon, on va dire.
Marron.
Marron, oui, un espèce de… Oui, couleur…
Marron glacé.
Marron glacé, exactement. Parce que je trouvais que ça allait bien avec le bronzage. Et surtout, il y a un esprit corsé avec la jupe qui est un peu plus évasée. Et ça me faisait vraiment penser à toutes ces robes que Sophia Loren portait un peu à l'époque, années 50, 60.
Et avec un petit gilet noir, très sobre.
Le gilet… C'était pour le froid,
ah
un peu.
D'accord. Mais,
oui, c'est ça.
Alors, moi, personnellement, j'ai adoré la une des Un Rock dans laquelle on compare à Brigitte Bardot.
Oui, moi aussi, j'adore.
Et Dieu créa Zaya.
Mais j'étais honorée de faire cette couverture. Et en plus d'avoir ce titre, je n'aurais jamais pu imaginer ça.
Alors, j'ai vu aussi, j'ai mené un tas d'enquêtes sur toi avant pour bien préparer l'émission. Et moi, j'ai adoré le film de Rebecca Zlotowski, que j'ai vu dans un avion il y a quelques années. Est-ce que c'est vrai que la robe que tu portes sur l'affiche, Vichy, c'est la tienne?
Exactement, c'est la mienne. C'est une robe que j'ai achetée il y a très longtemps. Je l'ai achetée à l'année 2012. C'est une Prada de la saison été 2012.
Ah oui, déjà, tu connais bien les dates.
Ah oui, je me souviens quand je l'ai achetée. Surtout, c'est une robe qui me tient à cœur. En plus, si vous regardez le documentaire Zaya de Zada A…
Je mettrai le lien. C'était prévu de mettre le lien.
De Zada A, c'était en 2012. Et à un moment, je suis dans mon bureau en train de dessiner avec cette robe-là. C'est exactement la même qui est à l'affiche.
Et c'est toi qui l'a imposé à Rebecca ou à la réalisatrice ou c'était d'un commun accord?
Non, pas du tout. En fait, un jour, on avait un rendez-vous de travail. Elle m'a donné un rendez-vous chez elle et il faisait beau. Et j'ai décidé de porter cette robe-là. Et quand elle a vu cette robe, elle a adoré. Elle m'a dit, mais la foi absolument pour le film. Et elle a contacté la costumière en disant, il faut cette robe-là.
Et dans d'autres films que tu as joué, celui qui va bientôt sortir également, est-ce que tu demandes à avoir un œil sur les tenues que tu vas porter pour mieux incarner le personnage?
J'aurais adoré pouvoir avoir ce droit.
Ah, tu n'as... C'est pas possible.
Non, on ne peut pas se permettre parce qu'après, ils vont dire qu'on est compliqué et qu'on est...
Ah !
Mais non, mais on ne peut pas. Malgré que normalement, c'est mieux parce que mon œil, je pense que l'œil d'une actrice pour incarner un rôle, souvent, est très important par rapport au choix vestimentaire. Et souvent aussi, on est impliqué dans la vie de tous les jours. On voit
bien
par
sûr
rapport à quelle période de sa vie est-ce qu'on est plus subtil de porter ce genre de vêtements ou plutôt un autre. Et non, on n'est pas... Il y a de les essayages et puis ils vous imposent et c'est eux qui décident, il faut porter ça.
Et parfois, tu dis non?
J'essaie de négocier avec délicatesse, mais vraiment, même des fois, je trouve des choses mais horribles, horribles. Avec Rebecca, c'est très bien, il y avait de très, très belles tenues, mais non, on n'a pas ce choix-là. Et c'est horrible.
C'est pour ça, quand tu vas réaliser ton propre film, tu vas pouvoir choisir toutes les tenues.
Ah, j'adorerais.
Justement, quel sera ton style dans 20 ans? Tu auras mon âge dans 20 ans. Comment tu te vois?
Moi, plus le temps passe, plus j'essaie de m'approcher vers la simplicité et plus de légèreté.
Simplicité et légèreté. Donc,
exactement,
on continue sur la légèreté.
Oui, c'est ça. Par exemple, si on regarde mon style vraiment en 2010, 2011, 2012, là, je jouais vraiment encore à la poupée parce que j'étais encore l'adolescence. J'étais une jeune femme, très, très jeune. Il y avait encore cette idée de jeu. On a encore envie de porter toutes ces robes de poupée et tout ça. Et je me contraignais et j'avais cette idée, j'aimais bien me serrer. J'avais des robes très, très serrées, très contraignantes.
Quitte à ne pas respirer.
Quitte à ne pas respirer et très, très carrée dans mes choix. Et j'aimais cette tenue et un côté très extrême. Et avec la contrainte des couleurs, des extensions, maintenant, je laisse ma couleur naturelle. Du coup, il y a moins de contraintes. J'ai plus besoin...
Au niveau des cheveux.
D'aller me faire colorer les cheveux tous les mois. Et pour les vêtements, pareil, j'ai envie d'avoir vraiment quelque chose de... plus qui se rapproche de la nature, un peu léger, un peu nonchalant, quelque chose. Et je me dis plus tard, j'aimerais encore plus aller vers là. Mon rêve, c'est vraiment d'être comme une hippie à la fin.
Ah, une hippie, carrément.
Moi, j'aurais rêvé d'être
une hippie. Comme Brigitte Bardot.
Exactement.
Avec des robes hippies, puis une fleur dans les
dans
cheveux.
Dans la nature, c'est ça mon rêve.
Avec tes animaux.
Je le fais pendant les vacances, mais j'aimerais pouvoir avoir ce style à plein temps. Mais je ne peux pas me permettre, parce que quand on est en ville, on ne peut pas se permettre ce style tout le temps. Mais j'aimerais... plus tard, pouvoir me permettre ce style.
Justement, tu parlais de la ville, et là, je vais rebondir sur le regard des autres. Effectivement, quand on voit maintenant, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui se font agresser ou qui reçoivent des remarques dans la rue. Toi, si on te fait une remarque sur ta tenue, là, comment tu réagis?
Oh, ben, je vais te dire comment je réagissais quand j'avais 12 ans.
Ah.
Déjà, quand j'avais 12 ans, moi, j'ai toujours adoré porter des mini-jupes, m'amuser comme ça. Mm-hmm. Et ma mère... elle m'a toujours laissé faire parce que pour elle, bah, c'est juste charmant. C'est juste une adolescente qui a envie de mettre une mini-jupe quand il y a un rayon de soleil. Il n'y a pas de mal là-dedans. Et elle l'a toujours dit, elle l'a toujours affirmé. Mais il y avait une espèce d'hystérie. Tous les élèves de l'école, c'était « Ah, mais pourquoi tu t'habilles comme ça, de cette manière ?»
Tu provoques.
Je ne vais pas dire les mots, mais tu es une fille frivole, mais c'est honteux, il n'y a pas de pudeur. Ils étaient choqués. Du coup, il fallait que je fasse le choix entre changer ma manière de m'habiller ou ne plus avoir d'amis. Je préfère ne plus avoir d'amis parce que je suis de nature révoltée. Et je me disais, moi, je ne vois pas le mal là-dedans et je ne vais pas abdiquer parce qu'eux, ils ont un problème. Et j'ai toujours, je me suis toujours révoltée. Et même, par exemple, j'avais des copines. Elles aimaient bien des fois ce que je portais. On pouvait aller faire les boutiques ensemble. On s'achetait la même mini-jupe. On était très contentes. Et je voyais dans leur regard, elles étaient contentes de porter cette mini-jupe. On sortait du magasin, on était pareil. Et puis, une semaine après, on se donne rendez-vous. On se dit, ah bah, on se retrouve avec la même tenue. Et elles arrivaient souvent avec une tenue complètement différente. Je leur disais, mais pourquoi ? alors qu'elles étaient très contentes.
Elles
au
n'osaient
moment...
pas, peut-être, non, ou c'était la pression sociale.
La pression sociale. Déjà, dès l'adolescence, tu as les parents qui commencent à modeler les filles. C'est ça la pression qu'on a autant que femme. Ça commence dès l'adolescence.
D'autant plus en Algérie à cette époque.
Ah non, mais là, c'est en France tout ça.
Ah, c'était en France.
L'âge de 12 ans,
ah oui,
c'est
12 ans,
t'étais
en France. Ouais.
Oui, j'ai déménagé à l'âge de 10 ans. Et puis non, parce que leurs parents leur disaient « Mais non, tu ne vas pas t'habiller comme ils traînaient, change-toi. » Mais moi, ma mère m'a toujours laissé cette liberté. Et je me disais « Mais c'est terrible, elle commence déjà à être modelée. » Et ils n'osaient pas. Et moi, je leur disais, mais c'est pas grave. Même s'ils nous traitent, même s'ils nous insultent, on leur dit, alors, c'est notre corps, on fait ce qu'on veut. Et j'essayais, comment dire, de pousser toutes les filles à répondre aux garçons et aux insultes en leur disant, allez, on se révolte. On leur dit, c'est notre corps, oui. Et je disais même à mes copines, c'est un peu vulgaire ce que je vais dire maintenant, s'ils nous disent qu'on est une pute, bah, c'est pas grave. On va aller les voir, on leur dit oui. Je suis une pute et alors ? Et moi, c'est une chose que j'ai fait tout le temps, toute mon adolescence, à tous les garçons, à tous les filles, tous ceux qui m'ont critiqué par rapport à ma tenue vestimentaire et c'était hors de question d'abdiquer. J'étais la traînée de l'endroit où j'habitais.
C'est extrêmement
j'étais
violent.
J'étais une fille à extrêmement. Réputation. J'avais une réputation, bien sûr. Une fille qui est tout le temps en mini-jupe, qui montre son nombril, son ventre. Mais moi, j'aimais cette mode-là des années 2000, les références Britney Spears, Christina Aguilera, le ventre à l'air.
Les crop tops, les mini-jupes.
Exactement. Et quand je m'habillais comme ça, j'avais comme une... mon cœur s'illuminait. Ça me donnait le sourire. Alors pourquoi me... M'enlever ce plaisir, non, m'enlever ce plaisir profond juste par rapport à ce que la société dit. Et je trouve beaucoup de femmes, elles, comment dire, elles se restreint par rapport au regard des autres et par rapport à ce que les hommes peuvent dire ou même leur faire. Mais ce n'est pas à nous de retirer ce plaisir, c'est plutôt à eux de changer leur manière de voir les choses. Et Bien sûr. Pense que si on impose notre manière de voir les choses et comment on s'habille, Ça deviendrait comme une chose qui est normale, finalement, et on va normaliser ça. Mais quand on a honte et qu'on enlève sa mini-jupe ou qu'on reboutonne son chemisier...
On abdique,
abdique et surtout, on ne les habitue pas. Parce que si on les habitue et que c'est ça la normalité, eux aussi, leur mentalité change. Si on pense aux années 70, la liberté sexuelle, vous avez partout des filles avec des shorts microscopiques.
Des jupes microscopiques.
Et des jupes, des shorts... Et les hommes se comportaient de manière différente aussi parce qu'on les avait habitués. Et c'est à nous de prendre cette liberté.
Et quand tu vois, moi je vois, j'habite à côté d'un lycée parisien et je suis effarée de voir les tenues des jeunes filles qui se cachent. Maintenant, elles se cachent.
Maintenant, elles se cachent.
C'est des grands t-shirts, des jeans baggy. Il n'y a plus du tout de féminité.
Parce qu'elles savent.
Soit, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ?
Parce qu'elles savent que la féminité, c'est quelque chose de dénigrant. Elles savent que par la société, c'est vu de cette manière-là. Et surtout, ça fait fille légère, fille facile. Et aucune femme
n'a envie
d'être mise
dans une
case.
Elle est en danger aussi. C'est un peu le message qu'on leur donne. Si tu mets une mini-jupe, tu es en danger.
En danger, et aussi elles ont peur de la cage. J'ai l'impression plus l'idée de la réputation, que les hommes ne les prennent pas au sérieux. C'est compliqué d'avoir un petit copain, une relation sérieuse, quand tu as une réputation de fille facile, tu sais. Et toutes les filles, ce qu'elles veulent, c'est avoir le copain ou le mari. Dès le très jeune âge, on veut être validé par un homme. Et c'est ça le problème.
Et finalement, validé par la société aussi.
Validé par la société et par un homme pour pouvoir vivre ce couple idéal, cette idée-là que la société nous met toujours à notre face, finalement. Et c'est surtout ça. Mais est-ce que les hommes essayent d'être validés par nous, les femmes ? Jamais.
Ah, jamais.
Jamais. Eux, ils s'habillent comme ils le souhaitent. Ils n'ont pas peur qu'on dise « Oh, vous êtes des goujards, vous sautez tout ce qui bouge ». Non, ils assument. Ils assument même d'être des lâches, mais tout.
Il suffit de regarder ce qui se passe dans le cinéma français actuellement. J'imagine que tu as entendu parler du coup de gueule de l'actrice Muriel Robin sur l'homosexualité féminine qui est très mal vue dans le cinéma. Et il y avait un débat ce matin, avec toi je ne fais que des parenthèses, il y avait Laure Adler face à un auteur, et Laure Adler défendait les femmes et disait « oui c'est vrai, on n'a pas le droit de vieillir », alors que les hommes, elle prenait l'exemple d'Alain Delon ou de d'Yves Montand, qui eux tournaient encore à 60-70 ans et étaient des sex-symboles.
Exactement. Oui, c'est vrai. Et par rapport à Muriel Robin, j'ai vu qu'un petit extrait très très court, j'ai pas vu tout ce qu'elle disait, mais le peu que j'ai entendu, je suis à 100% d'accord avec elle parce que j'ai des amis gays qui sont dans le cinéma. Ils peuvent pas s'épanouir dans leur vie privée aussi, font attention à ce qu'ils portent. Ouais, tu vois, c'est toujours la même chose. Tout ce qui se rapproche au féminin, ça veut dire même les hommes qui veulent se rapprocher de ce féminin, eux aussi sont dénigrés, eux aussi reçoivent la même punition que les femmes finalement, le rejet et on va pas les prendre au sérieux également. Ils savent qu'ils vont pas avoir les mêmes opportunités.
En fait, on vit dans une société extrêmement normée, finalement.
Mais surtout, on a un vrai problème avec la sexualité. Je pense que la liberté sexuelle ne s'est pas faite encore. On a encore des coutumes et des manières et des idéologies très archaïques encore par rapport à la sexualité et à la liberté du corps. Et non, il faut que ça soit caché, il faut avoir de la pudeur. Et tous ceux qui sortent de ce rang-là, bah, il faut un peu leur faire payer le prix en les rejetant, en les mettant un peu de côté.
Ouais, de toute façon, l'homosexualité est aussi bannie dans tous les secteurs. Il y a des personnes qui n'osent pas dire dans les milieux bancaires ou dans d'autres milieux, les
Exactement.
profs qui se
Oui,
cachent.
exactement. Et ça, c'est extrêmement triste.
Bon, on va chiffonner un peu plus légèrement quand même.
Oui.
Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais? Justement, un baggy, alors peut-être.
Non, c'est vrai, tu as bien vu, tu me connais bien. Jamais je ne porterai un baggy et jamais je ne porterai, tu vois, ces survêtements-là un peu comme les suites.
Les hoodies avec les grosses capuches.
Les hoodies, il y a aussi le bas qui va avec le hoodie. Ça s'appelle comment? Je ne sais même pas.
Bas de jogging.
Bas jogging, un peu comme le hoodie. Même toute seule à la maison, oh, le fait de le mettre, même s'il n'y a personne qui me regarde, moi pour moi-même, je ne pourrais pas. Oh, ça me démangerait. Je ne pourrais pas me voir ou même le fait de sentir ça sur moi. C'est quelque chose que je ne
Quoi,
peux pas.
tu ne te sens
Je me
pas toi?
sentirais, non, mais angoissée.
Ah, carrément.
Mais angoissée.
Et ou déguisé?
Non, angoissée même.
Angoissé.
Ah oui, je ne peux pas. Oh.
Et as-tu un autre
Après, c'est très personnel.
Évidemment, mais tout
Ça
le
m'angoisse.
rapport au vêtement est très très personnel.
Exactement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon pour d'autres, mais moi, ça m'angoisse.
Et alors, est-ce que tu as le souvenir d'un fashion faux pas quand même? Ou alors
Oh, non, mais c'est sûr, j'ai des fashion faux pas. Il faut que j'essaie de trouver le pire. Alors, le pire fashion faux pas.
Non, t'en as jamais fait
Non, non, mais c'est sûr que j'ai eu,
en
c'est
fait.
sûr.
Pourquoi? Parce que tu te sentais mal à l'aise? Tu t'es dit c'est un fashion faux pas
Non,
parce que tu
sur le
n'étais pas
moment,
toi?
non, mais peut-être après, ensuite, avec le recul maintenant, oui, c'est une chose que je ne mettrai pas, mais je ne sais pas si tu te souviens à la période là de. Mais j'étais très jeune, j'avais 16 ans. Christian au DJ. Après, c'est pas bien de. Et il y avait un artiste qui prenait des t-shirts dans les clubs et qui les découpait sur les filles.
Ah, je me souviens de ça, oui.
Et moi, je lui demandais de me faire une robe comme ça. Et c'était un peu spécial, c'était vraiment connoté à cette période-là, avec
Mais c'était pas
l'imprimétier.
toi.
En tout cas, c'est une chose que je ne pourrais pas porter maintenant, non. En tout cas, ça m'amusait. Moi, ce que j'aimais, c'est le fait qu'il découpe ça sur toi devant tout le monde. Je trouvais ça incroyable. Mais c'est vrai, la performance est incroyable. Et c'était très sexy. Et moi, je l'ai vu faire ça sur des filles. J'ai sauté sur eux. Je dis, ah oui, moi aussi, je veux ça.
Que penses-tu de l'expression être à la mode? Est-ce que ça veut dire quelque chose?
Ah non, je déteste. Je pense qu'on ne peut pas être à la mode en suivant cette expression, déjà. C'est qu'on a raté quelque chose. Au contraire, c'est quand on se dit je veux être à la mode, là on devient ringard. Pour moi, je suis un peu, comment dire, un peu extrême, mais non.
Tu suis les tendances?
Non, je ne suis pas du tout les tendances et je pense qu'il ne faut pas suivre les tendances, il faut essayer. En fait, tu repères un peu les nouveautés qu'il y a à chaque fois et tu essaies toujours de trouver les choses qui sont en accord avec ton identité. Avec ton mood board que tu t'es créé depuis des années, en fait, que tu évolues
Un
et
mood
qui.
board que tu te crées, c'est joli. Tu le
Oui.
fais réellement ou alors tu sais dans la tête?
Ah non, moi j'ai un mood board dans ma tête qui est là, en moi, depuis très longtemps et je le fais évoluer. Et il faudrait juste. En fait, je regarde les tendances, ce qui sort, et je prends juste les choses qui entrent dans l'esprit et qui vont avec l'esprit de ce qu'il y a déjà dans mon mood board.
Oui, de ce que tu veux. En fait, tu sais ce que tu veux.
Oui, c'est ça.
Et comment, à 19 ans, on peut créer une ligne de lingerie de haute couture ? Broder, en plus, tu as fait travailler des professionnels. Parce qu'il n'y avait rien qui te correspondait. Tu t'es dit, je vais créer ce que j'ai envie de porter ?
Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas cette idée d'histoire comme ça, parce que chaque tenue racontait des histoires. Moi, ce que j'avais envie, c'est surtout de pouvoir raconter ces histoires et tout ce que j'imaginais depuis très longtemps, depuis que j'étais petite. Je me suis dit, oui, ça m'amuserait de pouvoir faire quelque chose qui me plaît vraiment et d'imaginer tous ces scénarios et de pouvoir ensuite créer toutes ces tenues incroyables. Et ensuite, pour pouvoir réaliser ces rêves, on va dire, ces histoires-là, les meilleurs pour ça, c'était les artisans de la haute couture parce qu'ils ont un savoir-faire qui est exceptionnel. Ça aurait été complexe de créer ces scénarios, ces histoires, de manière aussi forte dans le prêt-à-porter, par exemple.
Et quel souvenir gardes-tu de Karl Lagerfeld ?
Un souvenir merveilleux. Beaucoup de tendresse et un moment mémorable qui restera toujours gravé dans ma vie, oui, et dans mon esprit également. Et tellement de douceur et tellement de générosité. Et c'est une rencontre qui m'a marquée.
Est-ce que ça t'a fait aussi avancer en tant que femme ?
Ah oui, complètement. Énormément avancé, même autant que créatrice aussi, parce que je me souviens la première rencontre, je suis allée le voir et la styliste avec qui je travaillais, elle m'a dit non, il faut être naturelle comme tu es d'habitude, n'aie pas de trac, prends ton livre de création et puis tu l'ouvres et tu lui racontes les histoires comme tu nous les racontes à nous. Et moi je stressais, est-ce que je vais vraiment être à côté de Karl Lagerfeld et lui raconter, moi, mes histoires. J'avais que 19 ans, je n'avais rien fait encore. Pour moi, c'était réel et je me dis, non, mais je ne peux pas. Qu'est-ce qui va en penser ? Mais je me suis dit, je n'ai pas le choix. On m'a dit qu'il fallait que je reste comme je suis. Et après, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il va en penser, mais j'avais tellement peur. Et du coup, j'ouvre le livre, je me vois encore et je commence à raconter look par look l'histoire. Et là je lui dis, bah là c'est une femme qui se baladait nue dans la forêt et il y avait au-dessus d'elle des arbres de cerisiers en fleurs et d'un coup il y a eu un coup de vent, c'est tombé et c'est resté accroché sur son corps parce que c'était comme
ça. C'est très poétique.
Mais chaque tenue c'était comme ça.
Et t'as écouté.
Et il a écouté et il aimait, il comprenait. Après il me dit, ah oui, il me donnait même des références. Ah oui, ça me fait penser à telle chose. Et d'un coup, dès que j'ai vu à partir de la première, deuxième histoire que ça lui plaisait, j'étais mais rassurée. Pour moi, c'était, comment dire, une confirmation.
Il m'a permis
une reconnaissance que je pouvais être libre et je pouvais continuer dans cette voie-là parce que je ne savais pas. Je me suis dit peut-être que le milieu de la mode va me trouver, comment dire, comme une espèce de chose naïve qui arrive comme ça avec ses histoires.
Le milieu de la mode qui est très dur.
Qui est très dur, mais en même temps qui laisse la créativité, qui comprennent toute créativité. Et ça, c'est une chose que j'ai remarquée. Et peu importe ton style, peu importe que c'est complètement à l'opposé, il n'y a pas de règle de ce qui se fait. Et quand Karl Lagerfeld m'a écoutée comme ça, même si ça sortait peut-être des discours des créateurs habituels, pour lui, bah, oui, c'était normal. C'était aussi normal, ça aussi. Même le côté qui peut être complètement barré ou excentrique ou spécial, il ne l'est pas finalement. Et finalement, la mode, c'est ça. C'est pouvoir accepter toute la créativité, surtout qu'il y ait une grande liberté sans se sentir jugé. Et c'est pour ça qu'on veut aussi des créateurs comme ça, qui puissent nous amener dans un univers complètement différent.
Et toi, justement, à propos de créateurs, quels sont tes créateurs préférés ? Où est-ce que tu chopes ? Où est-ce que tu chez qui tu vas ?
Ouais. Bah déjà, je vais commencer par dire Karl Lagerfeld, j'ai toujours une admiration pour ses créations, que ce soit pour Fendi ou Chanel. Ces créations, je porte ça dans mon cœur, très cher. Et en ce moment, où est-ce que j'ai plus de préférence finalement, parce que je suis toujours ouverte. Par exemple, une saison, je peux être très addict à une marque parce qu'elle entre dans mon mood board, et la saison suivante, ne rien trouver de joli. parce que ça n'entre plus dans mon mood board. En fait, je navigue un peu comme ça.
Là, il y a la Fashion Week de Paris qui va commencer. Est-ce que tu suis un peu les défilés ou pas du tout?
Oui, je regarde. Oui, je regarde.
Pour ton mood board, personnel?
Oui, j'aime bien regarder.
Quel conseil tu pourrais donner à une femme, justement, qui t'écoute et qui te dirait, ben moi, Zaya, j'aimerais être toi, mais je n'ose pas. Et femme de tous les âges.
Moi, qu'est-ce que ça veut dire, moi?
Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil?
Déjà, il ne faut pas qu'ils soient comme moi. Il faudrait qu'ils soient comme elles-mêmes, comme elles souhaitent. Il faudrait qu'elles soient elles, pas moi. Il ne faut jamais essayer d'être comme une personne de toute façon. Il faut juste se trouver et être authentique à soi, peu importe les conventions, et surtout ne pas se fier et faire attention au jugement. Ce qui compte, surtout par rapport à la mode, ce qui est important, c'est quand tu mets un vêtement, si on a ce rayonnement à l'intérieur, si ça nous donne ce sourire, si on se sent bien, parce que quand on porte un vêtement qui nous donne cet effet-là, je ne sais pas si tu vois de quel effet je parle.
Un vêtement qui te rend forte, qui te donne confiance en toi,
oui,
qui te sublime.
Et que tu rayonnes en fait à l'intérieur, même si les autres pensent que ça ne te va pas ou que tu n'as pas l'âge ou peu importe. Si toi, tu ressens ce rayonnement, bah, ne change pas. Il faut, peu importe, il n'y a pas de style finalement à suivre ou juste suivre son désir. C'est ça le plus important.
Est-ce que tu as un vêtement fétiche quand tu as un rendez-vous hyper important, un casting ou alors tout à l'heure pour aller sur le plateau télé, est-ce que tu mets un vêtement en particulier? Tu as un vêtement fétiche ou bon, pas du
Moi,
tout.
Je suis une fétichiste de la robe. Pas des sacs à main, pas des chaussures.
Ah ben, t'as anticipé ma question suivante.
Ah oui? Non mais oui, j'ai une obsession avec les robes. Les robes, vraiment c'est ça. Et ça commence toujours par la robe. Et ensuite, les accessoires, c'est après.
Est-ce que, donc pour toi, c'est la robe qui fait le look et non l'accessoire?
Ah oui, c'est complètement l'inverse. Après, ça doit suivre la robe et ça peut être même discret. Moi, j'aime bien quand c'est presque... invisible, surtout les chaussures.
Justement, j'ai vu que tu aimais beaucoup les chaussures à talons aussi.
Oui, oui. J'aime les talons, mais en même temps, confortable maintenant. Quand j'étais très, très jeune, je voulais juste des hauts talons, des hauts talons. Maintenant, j'ai trouvé la hauteur qui est parfaite pour moi.
Quelle est ta hauteur parfaite alors?
C'est un moyen, un talon moyen.
10 cm?
Oui, exactement.
10, c'est quand même pas mal.
Je sais pas, 10. Je sais pas, j'ai jamais mesuré, mais c'est un moyen. C'est pas du tout très, très haut. Mais le plus important, je pense, dans le soulier, c'est de se sentir confortable. Se dire, je peux marcher vite, courir avec, je peux faire un tas de choses. Là, ça nous convient. Si ça devient une contrainte ou que c'est lourd, ça ne sert à rien. Parce que il est censé suivre... notre silhouette, nos mouvements naturels et pas être une contrainte.
Je remarque que tu ne portes aucun bijou.
Oui, j'aime bien ne pas porter de bijoux. Et, parce que déjà, je trouve que des fois, ça peut couper, ça peut raccourcir. J'aime bien quand il n'y a rien. Je trouve qu'il y a un côté plus élongé, c'est ça ?
Allongé.
Et il n'y a pas de coupure, ni au niveau des poignets, ni au niveau du cou.
Ah, pour toi, oui, une montre, ça coupe. Ça coupe un bras.
Non, mais sur les autres, je trouve que c'est bien. Sur moi, c'est très délicat. Pas tous les bijoux me vont. J'ai l'air d'être déguisée dès que j'ai des bijoux déjà, des fois. Et j'aime aussi le fait aussi de pouvoir s'assumer en société, mais nue, sans bijoux. Parce que beaucoup de gens, même si c'est devenu un côté un peu bling-bling, ils ne peuvent pas sortir sans une montre, ou sans une bague. Il faut quelque chose un peu pour montrer son statut social. Mais moi, ce que j'adore, c'est aller même dans des endroits très, très... Moi, tu as vu, comment on dit ?
Huppé.
Et d'arriver sans le moindre bijou et ne pas avoir le besoin de montrer mon statut social ou de dire, voilà, j'ai des bijoux. Et je trouve que ça, c'est une force. C'est bien pouvoir arriver...
Et d'ailleurs, je regarde ton sac que je trouve très beau. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est it bag, it shoes?
Ah, it bag, it shoes. Non, moi, c'est pas... Non, je n'achète pas parce que c'est le it bag. Mais après, ça peut m'arriver par hasard que ce it bag, je l'aime. Mais je ne suis pas à cette tendance-là.
Tu t'écoutes, toi?
Oui, exactement. Les sacs, ils vont me faire plaisir. Des fois, je vais acheter des sacs qui ne sont pas du tout à la mode, que personne n'achète et je me sens bien. Là, en ce moment, je suis en train de me dire le meilleur sac. Finalement, il n'y a pas plus charmant. En réalité, si je devais choisir un sac qui est le plus beau, le plus magnifique et le plus charmant et que je pourrais tout le temps porter et qui me donne ce rayonnement, c'est tout ce qui est en osier.
Panier.
Exactement, tout le panier en osier.
Dans 20 ans, je te dis, tu vis à Saint-Tropez, dans un petit mât provençal.
Oui.
Mais c'est vrai.
En plus,
c'est ultra
chic. Ça fait pas souffrir les animaux, c'est très chic. Et en plus, ça nous donne une espèce de rayonnement, je trouve. De rayonnement. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin? C'est beau. En soi-même, le raffia, il n'y a pas plus beau que l'osier.
C'est du travail manuel.
Exactement.
Souvent. As-tu une icône de mode?
Une icône de mode. Brigitte Bardot. J'adore Brigitte Bardot.
C'est que j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a fort, fort, fort longtemps. Tu parles un peu comme elle.
Oui.
On te l'a déjà dit.
Oui, on me l'a dit, oui. Mais je suis honorée.
Quelle est ta définition de l'élégance?
L'élégance, c'est ne pas essayer d'être élégant. Pour moi, c'est ça la définition de l'élégance. Des personnes qui le sont naturellement, peu importe ce qu'ils portent, qui n'essayent pas. Quand tu essayes d'être élégant, y a plus d'élégance. On le sent, on le voit. On sent que tu essaies d'impressionner les autres. On sent que tu essaies de montrer quelque chose. Mais quand tu portes juste quelque chose qui te fait plaisir, juste parce que ça te fait du bien, ça te met dans un certain état, on le sent et se dit « Ah, cette personne est naturellement élégante ». J'arrive en tout cas, je ne sais pas si je m'explique bien, mais je trouve qu'on le remarque.
C'est très clair.
Les personnes qui ont une élégance innée, naturelle et qui n'essayent pas de se donner un air d'élégance et ceux qui...
D'ailleurs, voilà. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une personne que tu rencontres pour la première fois?
Qu'est-ce que je regarde en premier? En premier, c'est vraiment
la globalité.
La globalité, exactement. Et l'esprit, par exemple. Par exemple, je vais dire toi, je vais te prendre un exemple. Quand je t'ai vu tout à l'heure pour la première fois arriver, j'ai vu un esprit. Par exemple, tu es authentique à toi-même. C'est ce que
je suis arrivée
ressenti.
Avec mon casque de vélo.
Non, mais c'était par contre très élégant sans essayer de prouver quoi que ce soit. Il y a cette élégance naturelle, ce que j'ai ressenti. Même très simple, il y a ce côté vraiment... Tu as ton identité. Et c'est l'identité de la personne que j'aime comprendre, en fait, quand la personne... Et ton identité, je trouve que c'est une belle identité, c'est très beau. Il y a un côté très...
Merci.
Jane Birkin, très nouvelle vague. Et très, en même temps, je ne me casse pas la tête. Je prends ce qui me fait plaisir.
Ah, tu m'as bien cernée. Je suis bluffée.
Oui.
Alors, pour finir, je voudrais vous inviter, chers auditeurs, à aller voir ce très beau film... qui te correspond, le titre te va à merveille, L'air de la mer en libre. En plus, le film se passe à Rennes et tu parles à une bretonne. Donc, ce film ne peut que me correspondre. Film de Nadir Moknesh qui sort le 4 octobre.
Exactement.
C'est un film sur la liberté et je crois que tu es vraiment la liberté à mes yeux.
Oh, merci. Merci
infiniment, Zaya, pour ce moment qui a été, je dirais, très poétique.
Merci à toi, j'ai passé un agréable moment.
Merci à vous, chers auditeurs, et n'oubliez pas, en attendant de nous retrouver la semaine prochaine, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Et écoutez le conseil de Zaya, soyez authentique.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.